La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Eh bien, bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Françoise Lantôme, qui est professeure des universités émérite en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Lyon 2, et elle étudie spécialement l'enseignement de questions vives en histoire, telles que religion, laïcité et fait colonial, et elle étudie aussi le travail des enseignants en lien avec les politiques publiques. Et elle a dirigé avec Sébastien Urbanski un livre très intéressant sur lequel on va s'entretenir aujourd'hui, qui s'appelle « Laïcité, discrimination, racisme, les professionnel de l'éducation à l'épreuve », qui est paru aux presses universitaires de Lyon. Et ben, pour présenter l'ouvrage, je vais lire la quatrième de couverture, c'est plus simple. Alors, fruit d'une vaste étude qui était menée durant près de 5 ans dans plus d'une centaine d'établissements scolaires, cet ouvrage constitue une analyse des réactions des professionnels de l'éducation, que ce soit les enseignants, les personnels éducatifs, les personnels de santé, les directions d'établissement, leurs réactions aux événements du quotidien où s'expriment les tensions qui peuvent être liées à la laïcité, aux discriminations ou au racisme. Par la diversité tant des situations que des institutions étudiées, par exemple les collèges ou les lycées généraux professionnels, il y a l'enseignement public ou l'enseignement privé confessionnel, voilà, c'est très divers. Cette observation des logiques d'action collective et personnelle des professionnels de l'éducation présente un panorama inédit des attitudes face aux embûches qui relèvent de questions socialement vives. En s'appuyant sur une méthodologie rigoureuse, l'enquête apporte également une réponse documentée à des a priori qui sont trop souvent instrumentalisés par des discours médiatiques ou partisans. Si la variété du territoire français est très bien représentée par la prise en compte de la multiplicité des milieux sociaux, qui sont des zones rurales et aux grandes villes, l'outre-mer et les régions métropolitaines, il y a aussi des recherches qui sont menées au Brésil et en Suisse, qui apportent un contrepoint bienvenu aux recherches menées en France. Eh bien, tout d'abord, je vais peut-être un peu vous interroger un peu sur la méthodologie de cette enquête, donc ça s'appelle l'enquête Redisco. La méthodologie et un peu le résultat de cette enquête, si vous pourrez un peu en parler pour nos auditeurs.
Oui, bonjour. je vais peut-être commencer par dire que d'où vient l'enquête, avant de rentrer dans le vif du sujet de la méthodologie. On s'est posé la question en 2015, après les attentats qu'il y a eu en France, et qu'il y a eu une campagne importante, notamment médiatique, mais pas seulement, certains politiques l'ont relayé aussi, doutant de la capacité du système éducatif à éduquer les jeunes de façon, en gros, et de façon caricaturale, à ce qu'ils ne deviennent pas des terroristes, quoi. Et à les amener à partager des valeurs communes, des principes républicains, etc. Et il y avait beaucoup d'articles très alarmistes sur les difficultés des enseignants face à l'expression, notamment religieuse, qu'il pouvait y avoir dans des établissements. Donc nous sommes partis de là en nous demandant qu'est-ce qu'il en était en vrai, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il en était dans la réalité des établissements et dans les pratiques des professionnels de l'éducation, surtout des enseignants. Donc c'est à partir de cette interrogation que nous avons défini une méthode de travail qui s'est construite progressivement, d'ailleurs, parce qu'on a d'abord fait une enquête exploratoire et puis ensuite l'enquête approfondie. Et cette méthode consiste à avoir une approche diversifiée, alors à la fois par des entretiens auprès des personnels de l'éducation, mais aussi des observations, un traitement à la fois qualitatif et quantitatif des données, des documents aussi qu'on a pu avoir sur la caractéristique des établissements, par exemple, mais aussi des documents pédagogiques, parfois, que nous ont montré les enseignants, ou des ressources qu'ils utilisaient. Donc, c'est muni de tout cela. Comme on a travaillé dans plus d'une dizaine d'académies, finalement, en 5 ans d'enquête, on a pu observer et mettre en valeur un grand nombre de diversités de situations. Alors donc là, c'était le premier élément de la méthode. Un autre élément de la méthode important, c'est que ce n'était pas une enquête d'opinion, contrairement à ce qui paraît régulièrement par des sondages d'opinion. C'était une enquête qui portait sur les situations de travail, sur les pratiques des professionnels de l'éducation, et on demandait aux personnes qui ont accepté de nous parler de leur travail, on leur demandait de décrire des situations et d'expliquer comment ils faisaient dans ces situations, sur quoi ils pouvaient prendre appui pour agir, et quelles stratégies ils adoptaient, et finalement, quels besoins ils auraient pour agir au mieux selon eux. Donc voilà un peu, à gros traits, la méthode que nous avons choisie, qui nous permet d'être au plus près de la réalité du travail des enseignants, notamment.
D'accord. Et à propos de ça, si vous pouvez un peu nous parler, expliciter un peu donc, par rapport à des résultats. Il y avait plusieurs choses qui étaient assez intéressantes, notamment, je ne me rappelle plus, il y avait un exemple qui m'avait vraiment frappé, c'était un élève où les professeurs avaient réussi à faire en sorte, qui s'appelait Aziz, je crois, où il y avait eu quelques histoires, et de par l'attitude et le comportement du corps enseignant, des questions, comment ils se les sont posées, que le problème, il a parfaitement été très bien géré. Et, ça, c'était vraiment, je trouve, c'est un exemple assez éclairant de ce que le corps enseignant peut ressentir comme une réussite de son travail ou pas par rapport aux difficultés ou aux tensions qui sont créées, que ce soit par rapport aux situations ou de rapport à la laïcité ou de rapport aux discriminations, au racisme, etc. etc. Enfin, il y avait des exemples éclairants, mais celui-là, je trouvais qu'il était particulièrement éclairant.
Alors, dans l'exemple que vous citez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, c'était une de nos entrées pour l'analyse des données que nous avions, on voit ce qu'on a appelé la lutte des catégories. C'est-à-dire que chaque groupe ou chaque individu qualifie une situation. Est-ce que c'est une situation de racisme ou d'atteinte à la laïcité ou d'enrôlement dans des actions terroristes, par exemple, hein? Et on voit bien que, par exemple, dans le cas que vous citez, les journaux s'étaient emparés de cette affaire, puisque le jeune homme avait été un temps arrêté mais accusé de radicalisation. Et du côté des enseignants, qui ont été très surpris de découvrir ça, ils qualifiaient la situation autrement. Ils le qualifiaient comme de l'immaturité chez l'élève, et comme la nécessité d'avoir un travail pédagogique avec lui comme avec les autres élèves, ce qu'ils ont mis en place. Et là, il y a eu un peu la tension entre, d'un côté, la logique policière, la logique médiatique, et d'un autre côté, la logique pédagogique et éducative des enseignants. Pratiquement dans tous les cas qu'on a trouvés, ce qui est le plus important pour les enseignants, finalement, et malgré parfois des difficultés, c'est l'idée que l'éducation prend du temps et qu'on ne peut pas figer un élève, particulièrement à l'adolescence, à un moment T. Il peut très bien être ignorant, avoir des discours tout à fait répréhensibles même à un moment, mais grâce au travail d'éducation que font les enseignants, ils font le pari de son évolution. Et dans l'exemple que vous citez, ils se sont associés à des intervenants extérieurs pour, en utilisant le théâtre d'ailleurs, pour permettre à cet élève et à d'autres de prendre conscience d'un certain nombre de choses et de d'évoluer et de bouger en quelque sorte leur représentation dans leur tête. Ce qui a permis finalement, le jeune homme a été blanchi de toute accusation de radicalité et ça lui a permis à la fin de continuer sa scolarité de façon normale. Mais l'intérêt de cette situation qu'on retrouve à de multiples exemplaires, c'est cette tension qu'il y a entre la façon différente qu'ont les acteurs de qualifier les situations.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, un peu les questions que vous posez en préalable dans votre enquête, comment se fait la qualification d'atteinte à la laïcité dans l'action éducative ? Par exemple, est-ce qu'on peut donner à voir une évolution des conceptions de la laïcité en milieu scolaire ou pas ? Est-ce qu'il y a une certaine... Est-ce que la... Vous parlez aussi de la disjonction qu'il peut y avoir entre les catégories politiques médiatiques et ce qu'il y a dans ce qui est exercé au quotidien dans la scolarité ? Et que ce n'est pas forcément ce qui est vu, entendu dans les politiquement, médiatiquement, dans le discours public. Ça correspond peut-être pas forcément à ce qui est vécu et par les enseignants et par les élèves et leurs familles. Et un peu, c'est intéressant, c'est que toutes les mêmes tensions entre enseignants, comment eux-mêmes ils doivent catégoriser ces situations et comment ils les vivent. Et c'est un peu tout ça qui ressort un peu de cette enquête, et c'est ça que c'est assez intéressant, c'est que ça sort des a priori, mais ça montre aussi vraiment les situations vécues, et autant avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de difficultés, avec plus ou moins de disputes ou de sens commun, comment ça se joue au quotidien, quoi.
Oui, c'est ça. Alors, en gros, ce que montre notre enquête aussi, c'est que, avec des variations que je vais préciser ensuite, mais d'une façon générale, les personnels ont ou trouvent ou construisent des ressources de façon satisfaisante pour répondre à ces situations, pour faire face à ces situations. Je crois que c'est le premier, vraiment, c'est un des premiers apports de cette enquête. Contrairement à un discours sur l'incompétence présumée des enseignants. On peut même faire l'hypothèse que l'éducation nationale n'en serait pas là s'il n'y avait pas au contraire cette compétence en acte et au quotidien des enseignants malgré bien des difficultés. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Il y a aussi le fait que les enseignants sont pris dans des... dans des contraintes organisationnelles et des injonctions qui ne leur facilitent pas toujours les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que quand ils sont face à des situations de tension par rapport à des expressions religieuses un peu excessives ou quand ils sont face à des attitudes racistes ou antisémites, là où ça se passe le mieux, c'est là où il y a des espaces de délibération entre enseignants, là où il y a ce qu'on peut appeler des collectifs de travail, là où ils ont l'occasion de débattre entre eux sur comment s'y prendre pour agir au mieux. avec, c'est exactement ce qu'on appelle l'éthique professionnelle d'ailleurs, et c'est de ces discussions, même si ces discussions sont vives parfois, mais c'est de ces discussions qui peuvent mobiliser des ressources à la fois juridiques, pédagogiques, didactiques, institutionnelles, que peuvent ressortir des décisions plus éclairées. Mais cette démarche qu'on appelle des fois une démarche de prudence, parce que ça, dans toutes les relations, dans tous les métiers de relation à autrui, qu'il y a par définition une grande incertitude, n'est pas comme déjà que dans les objets il y a de l'incertitude, mais dans les humains il y a encore plus d'incertitude dans leur action. Dans toutes les relations, donc avec autrui, que ce soit les infirmières, les enseignants, les médecins ou d'autres métiers, il est très important d'avoir ce qu'on appelle des pratiques prudentielles. Ces pratiques prudentielles consiste à pouvoir discuter justement de la meilleure façon d'agir dans le contexte dans lequel on se situe. Car ça, c'est un autre apport de notre enquête, je pense, c'est de montrer la force de l'environnement du travail des enseignants. Qu'il s'agisse de l'organisation du travail, qu'il s'agisse de l'environnement local et qu'il s'agisse aussi des politiques publiques. Parmi les ressources des enseignants, la première ressource qui est mobilisée par eux, c'est la discipline d'enseignement. Parce que ce sont pour eux des savoirs à ambition universelle et qui leur servent de référence et de point d'appui pour, comme ils disent, déconstruire les préjugés, les stéréotypes des élèves, voire tout simplement l'ignorance que manifestent les élèves. Et un point aussi qui est remarquable, c'est que les enseignants font beaucoup moins de scandales, on pourrait dire, quand il y a des manifestations, des expressions d'élèves qui relèvent de l'ignorance, y compris sur des sujets très sensibles. Parce qu'ils estiment que c'est justement dans leur mission que de pouvoir expliquer aux élèves et leur faire comprendre, et qu'il est normal que les élèves n'arrivent pas à l'école en sachant tout, sinon à quoi servirait l'école en gros. Donc il est absolument normal que des élèves fassent des erreurs et des expressions erronées, et c'est le rôle justement des enseignants de les corriger petit à petit, avec toujours cette idée de temporalité, que ce n'est pas en un jour que ça se fait, mais que ça se construit progressivement, et que c'est comme cela qu'ils fondent leur action sur un principe d'éducabilité. Pour l'immense majorité d'entre eux, on n'a même pas trouvé d'enseignants. Alors après, bien sûr, on a travaillé avec des volontaires. Mais on n'a pas trouvé d'enseignant qui disait ces élèves sont irrécupérables, on ne peut rien en faire, même des fois s'ils ont des élèves qui sont difficiles, ça peut arriver.
Eh bien, on va poursuivre sur les variations de locales, voire même internationales sur lesquelles vous avez étudié, après la pause musicale.
Try to put you down. I won't stand to see you wear a frown. When you were around, you were all that I could own. But though you put me down, you'll never wear a frown. True devotion was my pledge to you. But though you put me down, girl, you never wear a crown. Guys may try to put you down. I won't stand to see you. to you, and that I will never be untrue. My love for you was real, I did what I could do, but though you put me down, girl, you never win a crown. But though you put me down, girl, you never win a crown. But though
vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'Étagère. On continue notre entretien avec Françoise Lantôme par rapport au livre qu'elle a dirigé avec Sébastien Urbanski, Laïcité, discrimination, racisme, les professionnels de l'éducation à l'épreuve. Et maintenant, on voudrait un peu s'intéresser aux différentes variations locales des situations qui sont vécues par les enseignants, les professionnels de l'éducation, selon les terrains que vous avez étudiés, donc que ce soit en zone rurale, en zone socialement favorisée, en zone défavorisée, qu'on appelle les quartiers populaires, mais aussi, il y a des exemples aussi en France, dans les dom-tom, par exemple à La Réunion. Il y a selon le type d'établissement, que ce soit établissement public ou établissement privé, confessionnel, sous contrat. Et il y a aussi, je crois, un exemple en Brésil et un en Suisse. Voilà. Et bien, si vous pouvez un peu nous parler, voilà, comme ça, du coup, c'est assez intéressant d'un peu de croiser, de voir quels sont. Et d'une part, ce qu'il y a en commun avec ces situations, mais quelles sont aussi les variables locales qui sont particulières à chaque situation.
Alors, les variables sont diverses, hein, et elles ne sont pas que liées au territoire, on va dire. Il y en a une qui est importante, il y en a deux qui sont importantes et que je n'ai pas encore mentionnées, que je voulais dire tout à l'heure. C'était la variable de l'ancienneté dans le métier et la variable de la discipline. On a observé que les enseignants qui disent avoir eu le plus de difficultés sont la plupart du temps des enseignants qui ont une faible ancienneté, qui sont plutôt novices et qui sont dans des établissements où il n'y a pas d'équipe qui les soutienne en quelque sorte. Et la deuxième dimension, ce sont des enseignants de disciplines dans lesquelles ils n'ont pas bénéficié, ou très peu, de formation sur les questions de laïcité particulièrement. Donc il y a une des variables selon les disciplines et selon l'ancienneté. Après, pour venir à votre question sur les variables locales, les variations locales, alors, c'est vrai qu'on a bénéficié du travail de... Alors, à l'époque, c'était une de mes doctorantes qui a monté une équipe au Brésil, qui a fait la même enquête qu'en France, avec les mêmes supports de recueil de données dans plusieurs établissements. Et en Suisse... où l'équipe suisse a eu plus de difficultés parce que ils ont dû soumettre le projet de l'enquête à un comité d'éthique qui a estimé que la question était trop sensible et qu'ils ne leur ont donc pas donné l'autorisation d'enquêter dans les établissements. Du coup, ils ont procédé autrement et ils ont procédé au sein de la Haute École pédagogique de Lausanne. Et ils ont enquêté auprès des étudiants qui se destinent à être enseignants. Alors d'une façon un peu différente, du coup, avec une méthode par questionnaire et puis quelques entretiens. Donc l'intérêt d'avoir un regard depuis l'étranger, c'est de faire ressortir des spécificités, bien sûr. Et puis il y a les variables internes à la France. Alors ces variables, comme vous l'avez dit, elles sont d'abord entre établissements. Établissements de type, par exemple, ceux qui sont classés REP, zones sensibles ou autres. Et on en a sur les 66 établissements publics dans lesquels on a enquêté, il y en a 23 qui font partie de ces établissements qu'on appelle classés en réseau d'éducation prioritaire ou zones sensibles ou REP+, etc. Et puis, il y a des variables aussi proprement territoriales. entre les établissements qui se situent en zone urbaine et à l'intérieur des zones urbaines avec des variations selon les quartiers ou les arrondissements dans les plus grandes villes, entre quartiers avec des populations favorisées ou au contraire défavorisées, et des établissements qui se situent en zone rurale. Et enfin, on a bénéficié d'une enquête, alors uniquement dans les établissements privés, parce que la collègue nous a rejoint plus tardivement, à La Réunion, sur l'île de La Réunion, qui a été aussi fort intéressante, puisqu'il y a la variation aussi se fait entre établissements publics et établissements privés sous contrat. On a enquêté dans les établissements privés sous contrat, alors qu'ils sont essentiellement catholiques en France, mais on a enquêté aussi un peu sur des établissements juifs, protestants et musulmans. Mais la grande majorité sont des établissements catholiques sous contrat. Donc ces variations permettent là aussi de voir qu'il y a des interprétations différentes et qui sont toujours très contextualisées et qui répondent à la fois aux soucis à la fois des établissements et des personnels de maintenir les élèves scolarisés, parce qu'une des craintes des enseignants, c'est de voir la déscolarisation d'élèves dont les familles et eux-mêmes se sentent en trop grand décalage par rapport aux normes scolaires, y compris concernant le racisme, par exemple, ou la laïcité. Donc ça donne lieu à des situations où les enseignants font des compromis, en quelque sorte, mais sans oublier un certain nombre de principes et en les mettant en valeur. Mais comment dire, ils font confiance au travail pédagogique, alors qu'il prend des formes très différentes, pour amener les élèves petit à petit à entrer dans l'univers scolaire avec ses règles et ses normes qui sont liées à des principes politiques, incluant la laïcité. Donc ces variables se traduisent dans la façon de traiter, par exemple, l'expression raciste. Il peut y avoir dans certains établissements où il y a très peu d'élèves issus de l'immigration, il peut y avoir dans ces établissements des expressions racistes de la part d'élèves qui sont extrêmement rapidement sanctionnées par les enseignants, qui d'une façon générale montrent une très grande vigilance, que ce soit par rapport au racisme ou par rapport à l'antisémitisme. Et il y a des établissements comme les établissements ruraux où il y a une expression raciste assez forte, et les établissements de quartiers populaires avec une forte présence de populations d'origine immigrée, où là aussi il y a une expression raciste voire antisémite, où là, les enseignants vont avoir des interprétations qui prennent en compte à la fois l'âge des élèves, ils parlent souvent de provocation adolescente, qui prennent en compte la situation scolaire de l'élève. On remarque que ce sont quasiment tout le temps des élèves en difficulté scolaire qui ont des expressions religieuses ou racistes ou antisémites. C'est une façon d'essayer de prendre le leader, de devenir un peu leader dans la classe en quelque sorte. Il y a des interprétations qui sont plus liées au contexte local. Je pense notamment en milieu rural, dans les établissements où les enseignants travaillent à ne pas mettre en conflit les élèves avec leur milieu familial. Ce sont des établissements qui sont situés dans des territoires où il y a un très fort vote Rassemblement national et où la parole raciste est très décomplexée. Et dans ce contexte-là, les enseignants font un travail pédagogique progressif pour amener les élèves d'abord à sortir un peu du milieu rural dans lequel ils sont passablement enfermés, pour voir plus de diversité, pour être confrontés aussi à elle, pour voir que ça ne les menace pas forcément non plus, mais qu'ils peuvent en trouver aussi des richesses, et pour les amener à cela. Et donc ça passe par eux, non pas par une condamnation morale ou une sanction forcément immédiate, mais plutôt par ce travail en finesse, en quelque sorte, pour les amener à un autre point de vue. C'est une position assez complexe qu'ont ces enseignants, et on voit bien que selon, là aussi, la discipline qu'ils ont, ils peuvent avoir des points de vue un peu différents. Selon aussi leur parcours personnel. Là, je n'en ai pas encore parlé, mais on prenait des informations auprès d'eux sur leur parcours personnel, et certains nous parlaient volontiers de leur parcours personnel, de leurs croyances ou pas, et ça peut aussi influencer leur façon d'agir. Mais d'une façon générale, les ressources qu'ils vont trouver là, ce sont des ressources dans le métier lui-même. C'est-à-dire comment faire en tant qu'enseignant pour amener des élèves qui ont des propos racistes, que les enseignants condamnent, et ils disent aux élèves que ce genre de propos n'a pas lieu d'être dans la classe. Mais comment les amener à avoir une autre posture, une autre vision des choses? C'est ça leur question. Et c'est ce à quoi ils travaillent avec des moyens divers. Donc les variations locales agissent énormément sur la façon de catégoriser les incidents et sur la façon d'agir et les ressources mobilisées pour l'action.
Et ce qui avait d'important aussi, c'était les variations entre les établissements publics et les établissements privés sous contrat, et essentiellement dans le cas que vous avez étudié, catholiques. Et c'était, j'ai trouvé c'est assez intéressant. Je crois que vous en avez fait un article avec quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, mais c'était assez intéressant.
Alors, effectivement, on a voulu aussi enseigner dans les établissements privés pour avoir là aussi un contrepoint avec le public, un élément de comparaison. Alors, dire d'abord que ça a été plus difficile pour nous d'enseigner dans les établissements privés qui se sont montrés moins accueillants, on va dire, à notre arrivée, plus sur la défensive, craignant que l'enquête ne puisse porter atteinte à leur image. Et souvent, les chefs d'établissement ont voulu définir eux-mêmes qui on allait rencontrer. Alors que dans les établissements publics, on a eu un accueil très favorable et on a pu rencontrer qui on voulait. Bon, malgré tout, on est arrivé à entrer dans pas mal d'établissements privés, puisqu'on avait rentré dans 35 établissements privés. Et ces établissements, il faut rappeler pour comprendre aussi ce qu'on y a trouvé, c'est que ces établissements choisissent leurs élèves. Donc, ils ont un public très différent du public de l'enseignement public. Ils choisissent leurs élèves à la fois sur critères économiques et sur critères scolaires. Donc on n'a pas du tout la même hétérogénéité dans les établissements privés que ce qu'on a dans les établissements publics. Il y a cependant des variations régionales aussi. Dans les régions où les établissements catholiques sous contrat scolarisent plus de 40% de la population, comme dans l'ouest de la France, il y a une plus grande diversité des élèves que dans la région parisienne ou en Rhône-Alpes, par exemple. Mais d'une façon générale, la population est beaucoup plus homogène, on le sait, toutes les statistiques le montrent, et ces établissements tendent à accueillir une population plutôt favorisée. Donc ça, déjà, ça permet de comprendre pourquoi les enseignants qu'on a rencontrés, ou le chef d'établissement d'ailleurs, ont moins eu de situations à nous décrire dans lesquelles ils estimaient qu'il y avait des questions de racisme, d'antisémitisme ou des questions de religion. Alors malgré tout, il y en avait, et ce qui est intéressant de noter sans doute, c'est que du point de vue des enseignants, des établissements privés catholiques, d'abord la laïcité n'est pas leur point de repère, puisqu'ils sont pas censés être sous le régime de la laïcité, mais ils l'utilisent parfois pour neutraliser certaines situations. Par exemple, quand ils ne veulent pas qu'il y ait de port de vêtements significatif de la région de la religion musulmane, parfois ils vont invoquer la laïcité pour les interdire dans certains établissements. Dans d'autres, ils ne les interdisent pas. Donc on voit que c'est un peu à géométrie variable. Après, le traitement de la diversité religieuse, il n'est pas fait sous l'égide, on pourrait dire, de principes républicains et de la laïcité, mais il est fait plutôt sous le couvert de l'œcuménisme. Donc l'universel religieux reste, mais il devient œcuménique, et il y a des justifications concernant l'accueil de familles de religions autres qui mettent ça en avant. Et il y a un enseignement spécifique à l'enseignement privé sous contrat catholique, qui est un enseignement qu'on appelle la pastorale. Et cet enseignement vise à favoriser, si on suit les préceptes du secrétariat de l'enseignement catholique, à favoriser de fait l'évangélisation des élèves. Mais dans les faits, c'est rarement ce qui se passe directement. C'est plutôt un hybride, sont plutôt des formations à caractère culturel ou liées à des ONG, avec des actions de bienfaisance, on va dire, qui permet aux enseignants d'aborder certaines questions parfois épineuses, mais aussi d'invisibiliser les différences religieuses. Donc il y a ce phénomène aussi qu'on a remarqué d'invisibilisation des différences et qui est aussi du fait des familles et des élèves. Les élèves qui ne sont pas catholiques et les familles qui ne sont pas catholiques, qui sont rares dans l'enseignement catholique privé, sous contrat, souvent adoptent une attitude de discrétion. De discrétion parce que le projet scolaire devient premier pour ces familles et les élèves, et pas du tout l'affirmation religieuse. Donc ça, c'est un élément important, mais avec des variations locales très importantes. Dans la revue Diversité, qui est une revue en ligne accessible à tout le monde, on a publié plusieurs articles concernant l'enseignement catholique sous contrat qui ne sont pas dans l'ouvrage et qui permettent de comparer aussi avec ce qu'on présente dans l'ouvrage. Et la situation la plus atypique, on pourrait dire, c'est à La Réunion, mais qui permet de voir deux attitudes très différentes à La Réunion entre des établissements dits d'excellence, très sélectifs, quelle que soit la religion des familles et des élèves, et des établissements qui accueillent un milieu extrêmement populaire avec des religions à la fois monothéistes, polythéistes et des pratiques extrêmement diverses. Et on a pu montrer que dans les établissements d'excellence, la dimension religieuse, comme dans la métropole, passait au second plan. Ce qui était important, c'est d'être les meilleurs, d'avoir les meilleurs résultats au baccalauréat, d'avoir les meilleurs passages à l'université dans les filières les plus réputées, on va dire. Alors que dans les établissements qui accueillent, particulièrement à La Réunion, ces milieux très très populaires et avec du polythéisme notamment, là ça devient plus de les mettre à la norme de l'enseignement catholique et avec des pratiques qui parfois consistent, comme ailleurs, à invisibiliser les différentes religions alors que théoriquement elles sont acceptées et à, imposer un ordre à dominante catholique dans ces établissements. Mais un point aussi intéressant, c'est si on compare public et privé, c'est qu'on retrouve un point commun, d'abord sur le fait que les enseignants au quotidien essayent de trouver des ressources face aux questionnements auxquels ils sont confrontés, même s'il y en a beaucoup moins dans le privé. Mais surtout, il y a la différence de discipline. Et on a observé que les enseignants d'histoire dans l'enseignement privé catholique sous contrat étaient beaucoup plus sur une ligne laïque républicaine que les autres disciplines, les autres enseignants d'autres disciplines. Donc il y a des phénomènes aussi de culture professionnelle et disciplinaire qui jouent.
Eh bien, on va faire la pause musicale avant de faire la dernière question ou la conclusion. Vous êtes sur Radio Escapado, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On vient d'écouter le groupe The Technics et le titre du morceau c'est Queen Majesty. On va finir donc notre entretien avec Françoise Lantôme par rapport à l'ouvrage qu'elle a dirigé avec Sébastien Urbanski, Laïcité, Discrimination, Racisme, les professionnels de l'éducation à l'épreuve. Et donc on voulait un peu en venir... cette question quand même assez primordiale, donc de ces situations d'enseignement qui peuvent parfois être catégorisées comme des possibles sujets de tension en matière de laïcité, mais aussi en matière de racisme, d'antisémitisme et de discrimination. Bon, on voit que dans le débat public, on parle beaucoup des quartiers populaires, des histoires d'abaya et tout ça, c'est pas trop le but et le sujet de notre question. C'est plutôt du point de vue des professeurs et de eux comment ils vivent ces situations là. Et ce que vous dites, c'est assez intéressant. C'est j'ai bien aimé aussi dans la conclusion hein, que vous le dites. C'est que tout officiel qu'ils soient, les professionnels de l'éducation scolaire, ils détiennent pas les clés de la modernité. Et leur tâche, c'est plutôt de saisir les aspirations contradictoires des élèves, de leurs familles, mais aussi de leurs collègues, dans le débat par rapport à toutes ces questions de modernité. Et en tant que porteur d'un projet républicain dans une société qui est assez différenciée, l'entretien précédent, on avait travaillé sur le livre de Bernard Lahire sur l'enfance de classe, et on voit vraiment que c'est différencié, surtout au niveau scolaire, les élèves le voient bien. Les enseignants, ils vont déployer leurs actions dans deux directions principales, mises en évidence par l'enquête, vous dites. D'une part, il y a le dialogue avec ou la confrontation avec ce qu'on appelle, entre guillemets, des expressions culturelles, voilà. Et aussi, d'autre part, il y a aussi encore des situations où le culturel est indissociable de la dimension socio-économique. Voilà. Donc, ça, c'est aussi intéressant à en parler. Et en tant qu'ancienne professeure d'histoire, vous avez fait aussi un chapitre très intéressant par rapport aux situations de professeur d'histoire et par rapport à ce savoir universel qui est l'histoire. Et ça aussi, c'est assez intéressant. Donc, je pense que ça serait bien de revenir aussi un peu sur ces questions particulières, comment les enseignants ils voient la chose et comment ils le mettent en pratique.
La première chose qu'on peut dire, c'est peut-être que pour les enseignants, les questions qui font la une des médias ne correspondent pas à leurs préoccupations premières. Bon, je le rappelle parce qu'on a tendance à l'oublier. Dans notre enquête, la première question qu'on posait volontairement n'employait pas le mot ni religion, ni laïcité, ni discrimination, ni racisme, ni antisémitisme. On demandait aux enseignants, est-ce qu'ils connaissaient, ils avaient expérimenté, vécu des situations caractéristiques de la diversité culturelle dans leur pratique. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir comment ils interprétaient cette question et qu'est-ce qu'ils mettaient sous couvert de diversité socio-culturelle et qu'est-ce qui était leur préoccupation. Et on a recueilli comme ça plus de 2700 situations décrites par les enseignants. Et parmi ces situations, seulement 35% portent sur les questions de religion, de laïcité, de discrimination et de racisme. Donc ça veut dire que, par contre, ce qui arrive très très fort, c'est la question de la mixité sociale et culturelle qu'ils jugent très souvent insuffisante et source de difficultés. Donc là, ça permet aussi de remettre un peu les choses à leur place et de dire que si l'abaya excite beaucoup les médias, ça n'est pas la préoccupation première de l'immense majorité des enseignants. Alors le deuxième point, c'est que les enseignants, historiquement, font partie des groupes intermédiaires qui ont eu pour mission de moderniser, on pourrait dire, la société. Alors ce qu'on peut appeler, ce qui est caractéristique de la modernité, c'est la différenciation. Une division sociale du travail de plus en plus importante, une division aussi sociale des groupes et des sous-groupes de sous-groupes, etc., qui est encore plus importante. Donc cette différenciation de la société, qui se traduit par un pluralisme des valeurs, d'ailleurs dans les sociétés démocratiques, cette différenciation, l'État français a donné mission en quelque sorte à ses agents que sont les enseignants de contribuer à la modernisation de la société. Alors ça a passé, c'est passé par exemple par l'imposition de la langue française comme langue unique pendant longtemps à l'école, en mettant de côté les autres langues dites locales ou régionales et qui étaient interdites, dont l'usage était interdit à l'école. Mais si on prend d'une façon générale le sens de cette modernité, c'est ce qu'on dit, c'est que la modernité justement n'appartient pas qu'à l'État. contrairement à ce que pensent les modernisateurs de l'État français, mais y compris les groupes les plus éloignés des valeurs républicaines, se situent dans la modernité aussi, avec un projet complètement différent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils se situent dans une logique démocratique, mais ils se situent dans la modernité, dans le sens où ils veulent aussi contribuer et participer, même de façon conflictuelle, au débat sur ce qu'est cette modernité, justement. Quitte à défendre des idées de réduction de la différenciation, par exemple les discours sur « il ne faut plus d'immigration », c'est une façon de dire « il faut réduire la différenciation de la société ». Donc le rôle des enseignants, du coup, devient, comme d'autres groupes intermédiaires, de réguler, de à la fois prendre en compte cette différenciation et la pluralité des valeurs et de la réguler. Et on observe à travers notre enquête que c'est effectivement ce qu'ils tentent de faire quotidiennement à travers leur pratique, en conduisant les élèves et les familles dans un dialogue avec les familles. Et avec aussi quelque chose qui est intéressant parce que ça contribue à ce qu'on a appelé une redéfinition de la laïcité par le bas, c'est-à-dire à travers leurs pratiques, qui consiste à défendre une conception républicaine, universaliste de la laïcité, avec une dominante libérale, c'est-à-dire c'est la liberté de l'individu et l'autonomie de l'individu, l'individualisme moral, comme on dit, de l'individu qui est premier, mais en sachant parfois s'appuyer sur la reconnaissance de spécificités, que ce soit des reconnaissances d'appartenance ethnique, des reconnaissances d'appartenance religieuse, non pas pour enfermer les élèves ou leurs familles dans ses appartenances, mais pour en faire un point d'appui pour conduire les élèves petit à petit à adopter un point de vue plus universaliste et libéral, plus républicain, on pourrait dire, classique de l'école et de la société dans laquelle ils vivent. Donc, en quelque sorte, ça s'éloigne d'une vision que je qualifierais presque d'intégriste de la laïcité et identitaire de la laïcité, mais c'est plutôt comme le projet de la laïcité l'a été dans les premières lois de laïcité, de reprendre le projet d'inclusion, qui est le projet laïque, en partant de là où en sont les élèves et les familles, en reconnaissant leurs spécificités, mais aussi en les ouvrant et en les amenant un peu à une autre façon de voir les choses. Donc ça, c'est un point qui me semble très important dans notre enquête.
Oui, ça c'est assez intéressant. Bon, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a... d'expliciter beaucoup tous les cas où les professeurs, il n'y a pas d'unanimité dans le corps enseignant certainement pas tous ne partagent pas forcément la même chose, mais en travaillant ensemble, bon, ils essayent d'avoir des stratégies plus ou moins communes, hein. Il y a plusieurs stratégies, il y en a qui pratiquent ce qu'on peut appeler une stratégie de contournement, de ne pas aller directement affronter le face à face, mais essayer de on va dire par le dialogue ou l'éducation au long cours faire évoluer les élèves. Il y en a qui essayent d'avoir un discours, on va dire, un peu dans l'ordre du savoir universel, un peu Troisième République, de l'ordre du rationnel scientifique, bon, qui peut être un peu abscon, qui peut peut-être avoir du mal à passer, etc. Il n'y a pas forcément d'unanimité, il y a plusieurs stratégies, et suivant que les enseignants, ils soient, comme vous dites, dans un collectif de travail, qu'ils soient plus isolés, ils ne voient pas aussi non plus la chose de la même façon, et donc c'est voilà, c'est il y a une grande diversité de de réponses par rapport à ça et de cas par rapport à ça et par rapport à ça qui est intéressant dans votre enquête.
Oui, mais au-delà de cette diversité, ce qui est quand même convergent, c'est cette redéfinition de la laïcité par le bas et la capacité des professionnels à se saisir et à construire des ressources adaptées au projet éducatif.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, hein, si je peux me permettre, hein, ce que je vais trouver assez intéressant dans la préface de votre livre, hein, qui était fait par Smaïn Lacher, qui avait d'ailleurs concouru à la réédition des excellents textes d'Abdelmalek Sayad sur les enfants d'immigrés à l'école, qui était paru aux éditions du Seuil il y a quelques années. Et ce qui est assez intéressant dans la préface de votre livre, ce qu'il dit, c'est que des disciplines comme l'histoire ou la géographie, lorsqu'elles sont enseignées, peuvent permettre l'expression des identités des élèves, sans pour autant que celles-ci débouchent sur des revendications exclusives et intolérantes. Il ne s'agit pas de laisser passer, de, entre guillemets, laisser faire, entre guillemets, laxisme, entre guillemets, compréhension à l'égard de propos ou jugements inadmissibles. Il s'agit d'une lutte contre le racisme et l'antisémitisme avec les moyens et les outils dont disposent les établissements scolaires et les enseignants. Les autres, vous rappelez très bien dans cet ouvrage que cette lutte ne doit pas être confondue avec une politique de sanctions systématiques, car cela alors aurait toutes les chances d'être voué à l'échec. Et il conclut par « Il ne fait aucun doute que votre ouvrage, en s'écartant des débats publics trop souvent prisonniers d'une forte idéologisation, pour ne pas dire clivage artificiel, sur les religions, la laïcité, le racisme ou l'antisémitisme, votre ouvrage fera date, c'est ce qu'on espère, loin des discours relativement abstraits, des indignations obscures ou des utopies approximatives. » C'est une grande utilité pour ceux qui ont à cœur de faire de l'école une institution productrice de connaissances et d'émancipation. Voilà, donc ça résume un peu le propos. Je trouvais ça assez bien, vu comment il le dit, de la portée, le sens de cette enquête, de vos travaux et ce à quoi vous aspirez et ce que vous racontez, quoi.
D'accord, ben oui, je trouve que c'est un bon résumé, effectivement.
Voilà, et je trouve que c'est intéressant de faire ça, justement dans une époque où ce qui est assez dommage du point de vue de l'éducation, justement après en plus des questions d'actualité sur ce qui a pu se passer au point de vue d'après la mort du jeune Naël avec les émeutes, qu'il y a eu un discours des autorités publiques pour un peu blâmer l'école du manque d'autorité, qui serait peut-être un peu responsable de cette violence exacerbée des élèves et donc d'un discours du ministre Gabriel Attal, un rapport à l'autorité du professeur. Récemment, là, dans Le Monde du 20 septembre, il y a un entretien avec Bruno Robès, qui est professeur en sciences d'éducation et spécialiste de la pédagogie institutionnelle, et il dit que l'autorité, pas, les enseignants, ils le savent très bien que le ministère Gabriel Attal, il avait demandé entre guillemets, qu'il fallait revenir à des choses simples, le respect du professeur et son autorité. Et ben le Bruno Robès, qui est spécialiste de ces questions-là, il dit que c'est pas du tout que c'est pas du tout comme ça. L'autorité, elle décrète pas. Les enseignants le savent bien. Il leur suffit pas de déclarer aux élèves. Je suis votre professeur, vous devez me respecter pour que mon autorité, pour que ça se passe comme ça. C'est une histoire le professeur, il est plutôt le représentant du monde des adultes et le garant de la transmission des savoirs. À ce titre, s'il dispose d'une autorité statutaire qui lui permet de poser un cadre, c'est uniquement dans ses façons de mettre en œuvre des situations d'enseignement et de ses relations aux élèves qu'il va exercer justement cette autorité. Et ça aussi, ça remettait un peu les idées au clair par rapport à tous ces débats un peu médiatiques à l'emporte-pièce, un peu loin des réalités du corps enseignant. Il fallait aussi le rappeler.
J'ajouterais, si je peux me permettre, que plutôt que la question de l'autorité auprès des élèves, il y a aussi un grand impensé dans l'éducation nationale, mais qui ne semble pas troubler le ministre, qui est un impensé sur les discriminations. Et notamment sur le rôle de l'orientation, parce qu'il y a quand même une question, pourquoi ces jeunes s'en prennent aux écoles? Pourquoi il y a des enquêtes qui montrent que le personnage de l'école le plus détesté, c'est le conseiller d'orientation? Donc il y a des études qui montrent que l'orientation est discriminante souvent. Et cette question-là, elle n'est pas abordée et elle est impensée chez les personnels, même en ça, on l'a pu le constater, et elle enlève l'autorité de l'institution. Ce n'est pas l'autorité de chaque professeur, c'est l'autorité de l'institution dans son ensemble, si elle n'est pas capable de traiter de façon juste et égale chaque élève.
Eh bien, sur ces bonnes paroles, on vous remercie pour cet entretien, on vous souhaite une bonne continuation et on conseille donc à tout le monde la lecture de cet ouvrage « Laïcité, discrimination, racisme, les professionnels de l'éducation à l'épreuve » qui est paru aux presses universitaires de Lyon, donc sous la direction de Françoise Montaume et Sébastien Urbanski. Au revoir.
Au revoir.
La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardi du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.